La communication que je présente aujourd'hui, nous l'avons réalisée à quatre mains. Marie-Vonne Prévost, qui est maître de conférence en aménagement et en urbanisme à l'IAUL de Lille, et moi-même, qui suis également enseignant dans cette structure. Je suis accessoirement doctorant, et ma directrice de thèse est Marie-Vonne Prévost. Pour te dire, il y a déjà quelques années que nous écrivons ensemble. Alors, je vais vous présenter une étude de cas. J'ai presque envie de vous dire, c'est comme un récit, presque comme un récit, qui va porter sur la ZAC de l'Union. Alors, la ZAC de l'Union s'inscrit dans le temps long, 1990-2022. L'emprise, 70 hectares, est à l'intersection des trois communes de la Melle les plus touchées par la crise industrielle. La première étude a été réalisée par le cabinet Urbis Cosa et présentée en 1993, voilà, pour localiser le site de l'Union sur le versant nord-est de la métropole européenne de Lille, à l'intersection des trois villes de Tourcoing, Waterloo et Roubaix. Après cette première étude, on va connaître 12 ans relativement perturbés, parsemés d'atermoiements, sur lesquels je ne vais pas m'étaler ici. Le marché de définition est conclu en 2004, il est confié à l'agence Reichen et Robert. La SEM Ville Renouvelée, qui est un acteur prépondérant du versant nord-est, n'est désignée qu'en 2007, même si elle était pressentie de très longue date. Et donc, l'échéance de la concession, c'est 2022, donc dans moins de 4 ans, dorénavant. L'opération que je vais vous évoquer, c'est l'opération Stephenson, elle démarre en 2000. Et en 2004, le peignage de la Tossée et la Grande Brasserie Moderne ferment deux sites industriels, de sorte que ces deux sites rentrent de fait dans le périmètre de cette ZAC, alors même qu'elle n'a pas encore été formalisée. Les affectent au service du militantisme. Le site initial de l'Union était essentiellement industriel. Quelques rares secteurs comportaient de l'habitat considéré comme dégradé et étaient promis à la démolition. Les abords de la rue de la Tossée, dont l'impasse Stephenson, échappèrent à ce destin grâce à la mobilisation des habitants. C'est un îlot de grande taille, 45 000 m², composé pour un tiers de maisons individuelles, 53, et pour deux tiers d'ateliers. Dès 1998, alors que la ZAC n'est pas encore créée et qu'il n'y a donc pas de déclaration d'utilité publique, la communauté urbaine missionne l'établissement public foncier. Dès 2000, elle lui demande de procéder au rachat des propriétés selon une procédure amiable. Les premières prises de contact alertent les habitants propriétaires. Au mois de mai 2000, ils entrent en résistance, entre guillemets, et créent l'association Raspa Mon Quartier. Mais en 2002, la moitié d'entre eux a jeté l'éponge et a préféré vendre. En 2004, l'Université populaire et citoyenne de Roubaix entre en scène. Elle vient tout juste d'être créée, mais ses fondateurs s'inscrivent dans le temps long des luttes urbaines roubaisiennes, à commencer par l'Almagar. Sur le mode associatif, cette nouvelle structure se donne pour objet la lutte contre toutes les formes de discrimination. Elle apporte aussitôt son soutien à l'association des habitants de l'îlot Stephenson. Elle parvient aussi à fédérer les autres acteurs locaux au sein d'un mouvement qui, à son tour, prend le nom de Collectif de l'Union en 2005. C'est que tous voient alors que la ZAC va enfin prendre forme et qu'elle s'annonce décisive. Désignée comme un des pôles d'excellence du schéma directeur de 2002, la métropole s'apprête à l'engager dans la démarche des écoquartiers. La consultation des urbanistes est donc déjà amorcée, le marché de définition. Roubaix, Tourcoing et Waterloo entendent enfin investir ce gigantesque délaissé. Dans un premier temps, la sollicitation des affects est plutôt ici le fait des militants, en quête de légitimité, et qui entendent se consolider davantage à proportion de leur soutien aux habitants de l'îlot Stephenson, et en parallèle aux ouvriers de la Tossée, dont le site vient également de fermer. Face à ces antagonismes, à l'inverse de toute raideur institutionnelle, la SEM-Ville renouvelée, concessionnaire potentiel de la ZAC, puisqu'elle ne le sera donc officiellement qu'en 2007, épouse alors ses expressions citoyennes et va même s'acculturer à ces dispositifs qui ont d'abord été portés par les mouvements militants. Mais a-t-elle vraiment le choix ? En effet, l'association RASPAM Mon Quartier a trouvé un autre allié, plus décisif encore. Le 12 février 2004, le maire de Tourcoing a déclaré qu'il n'y a pas d'utilité à démolir les maisons des rues Stephenson et de la Tossée. Je cite un propos d'une habitante. « L'ancien maire nous a dit, lorsqu'il a visité nos maisons pour la première fois, ce sont des bijoux. » De fait, en 2007, la SEM Ville Renouvelée a alors récupéré la charge des maisons rachetées par l'EPF, 29, éparpillées dans l'îlot, au milieu des propriétés restantes, 24. Il n'est donc plus question de table rase. Elle doit réhabiliter ce patrimoine désormais public. Ce rapport de force inédit l'oblige à composer avec les habitants, fédérés et soutenus par le collectif de l'Union. Il lui faut alors accepter le dialogue, envisager une nouvelle forme de production urbaine, construire une nouvelle gouvernance, dans un contexte de forte mobilisation. 4 années sont ainsi encore nécessaires, 2004-2008, pour entendre la demande des propriétaires et y répondre par une mission de maîtrise d'œuvre qui relève en réalité d'une véritable assistance à maîtrise d'ouvrage. Ainsi, en 2008, le groupement Construire, piloté par Patrick Bouchain, est missionné. Un lieu de proximité lui est dévolu, au cœur du site comme il se doit, l'atelier électrique, inauguré le 10 avril 2009. Mais c'est seulement en octobre 2012 que 12 maisons sont réattribuées au bailleur social. L'île Métropole Habitat est louée. Pendant ces années, le rôle de la SEM Ville Renouvelée apparaît très en demi-teinte. Elle délègue le dialogue à Bouchain. Elle l'écoute, elle l'observe, elle le photographie avant de faire sienne l'expérience et de nourrir ses propres supports de communication. Les affecte au service de la création architecturale à l'échelle de l'îlot Stephenson. La SEM Ville Renouvelée connaissait Patrick Bouchain pour lui avoir confié la réhabilitation de la maison folie La Condition Publique dans le cadre de la vaste opération Lille 2004, capitale européenne de la culture. Ces cadres avaient été fortement impressionnés par l'attention qu'ils portaient à la mémoire ouvrière, à l'archéologie industrielle, par sa capacité à interagir avec les contraintes et le programme. Avec un sens certain de la scénographie, Bouchain avait abouti à une conception nouvelle de la réhabilitation, qui n'entendait plus cacher ni les supports, ni les étapes, ni les repentirs. Le résultat esthétique, inattendu et festif, restaurait le regard sur cette mémoire sociale. Patrick Bouchain revendique une filiation avec Lucien Kroll et son emblématique Mémé, considéré comme l'aboutissement d'une co-conception dans laquelle la maîtrise d'œuvre n'est plus l'exécutant du maître d'ouvrage, mais le conciliateur de tous les droits et usages liés à l'objet architectural afin que ce dernier devienne, dans son fonctionnement et dans le temps, le support d'une nouvelle sociabilité. Pour Kroll, comme pour Bouchain, il s'agit d'une démarche d'ordre néo-vernaculaire dans la mesure où ce ne sont plus les habitants, les usagers qui construisent par et pour eux-mêmes, comme dans la tradition rurale, mais les hommes de l'art, architectes et artisans qui s'intercalent dans le dispositif, mais dans le but de reconstruire une valeur collective. Pour l'îlot Stephenson, il faut définir un process de réhabilitation, à la fois directif et adapté pour chacune des 53 habitations, propriétés privées ou publiques. Comment tirer le parti actuel du potentiel modeste mais réel d'une maison de ville industrielle. Recyclage et réemploi sont les maîtres mots de la réponse de Bouchain. Les matériaux existants sont dûment identifiés, recyclés pour les uns, définitivement consumés pour d'autres, comme le bois. Ce qui est conservé et catalogué, carrelage, tuiles, pour être proposé au réemploi et ainsi contribuer à la personnalisation des logements, je le mets entre guillemets. La façade sur rue, la trame, la structure en briques sont les invariants. Les façades sur jardin, les surélévations de toit, les couleurs et les matériaux contemporains en sont les déclinaisons. C'est une syntaxe très organisée dont Bouchain attend que chacun s'y soumette volontiers. Dans le « vivre ensemble », entre guillemets, l'exercice de la liberté individuelle consiste aussi en l'acceptation des règles communes. L'architecte est garant du respect par chacun du processus collectif. À lui de convaincre. En définitive, le projet de l'îlot Stephenson porte l'empreinte indéniable de Bouchain, et non tant celle des habitants. Jusqu'en 2012, les réunions de l'atelier électrique vont rythmer la vie du quartier. C'est un lieu d'échange et de formation à la fois, où la maquette joue un rôle prépondérant. Pas seulement pour les habitants, mais pour les étudiants en architecture également. Les citations de Patrick Bouchain, cette maquette sera réalisée par les étudiants en architecture pour leur montrer qu'un travail modeste en architecture est un vrai travail. Pour autant, ça n'ira pas sans provoquer des frustrations. J'ouvre les guillemets. On vient une fois par mois, une heure environ, on nous dit « il va se passer ça », on pense faire ça là, là-bas, voilà. Point final. Après nous, on dit oui ou on dit non. Mais quand on dit non, c'est pas facile. Quand on dit oui, c'est facile. Ça va dans le sens. Mais de toute façon, ce dont on discute en réunion, c'est des choses banales. En réalité, pour Bouchain et son équipe, le véritable enjeu architectural de ces espaces domestiques est la lumière qu'il s'agit d'optimiser. En dépit des mitoyennetés aveugles et de l'étroitesse du parcellaire. C'est sur ce précepte proprement moderne qu'ils entreprennent d'ouvrir les façades et les toits, sur la rue et sur les jardins. Dans le fil de cette clarté recherchée, Bouchain fait aussi le choix de l'abstraction, du décloisonnement et du plan libre, du blanc, qui domine dans les documents photographiques présentant les intérieurs modèles. Dans cette abstraction, le matériau de réemploi, archéologique, fragmentaire, les carrelages, prend par contraste un relief qui confirme sa valeur comme s'il était exposé dans une galerie d'art contemporain. Dans cette dialectique de l'unité et de la différence, du temps long et de la contemporanéité, la modernité, elle-même le mouvement moderne, apparaît comme post-moderne, dans une attitude proprement éclectique. C'est pourtant bien davantage qu'une esthétique. C'est la démonstration de ce que l'économie matérielle de la récupération doit servir le propos plus ambitieux de la frugalité et dévoiler une philosophie du temps où le transitoire se substitue au long terme, au pérenne, de sorte que la pratique architecturale témoigne ou témoignerait d'un mouvement perpétuel. Tout est consommable. À l'échelle architecturale, cette échelle architecturale fait écho au palimpseste urbain, mis en œuvre sur l'ancien site industriel du peignage de la Tossée. Mais cette fois, à l'échelle globale d'un quartier. Et c'est vrai que l'image qui nous vient, c'est celle du palimpseste. Dans ce processus, sous forme de fragments, le rôle du patrimoine est surtout de contribuer à ce qui apparaît comme une figure rhétorique essentielle de l'urbanisme contemporain, peut-être même aujourd'hui la seule. Telle une syntaxe en apparence assez rigoureuse, Le palimpseste a pour intérêt d'autoriser l'assemblage d'éléments disparates, voire contradictoires, du vocabulaire, mais dont la combinaison est nécessaire pour construire le discours où chacun pourra entendre ce qu'il voit et ce qu'il veut entendre. C'est que sans renier l'âme des lieux, l'histoire, la mémoire, la ZAC de l'Union doit aussi démontrer qu'elle fait toute sa place au développement durable, à la ville accessible, à la mixité sociale, à la nouvelle économie. Selon cette syntaxe, histoire et modernité doivent d'emblée composer l'une avec l'autre, et à travers elles, le marché, le social, le culturel, les valeurs. En tant que signe, les objets assemblés dans le palimpseste parlent à nos affects avec clarté. Inscription dans la durée et dans l'espace, promesse de progrès, évolution sociale et culturelle, sentiment d'appartenance à un lieu, identification du quartier en termes d'échelle et de signes. Hybride par principe, le palimpseste est le prolongement contemporain, post-moderne, de l'éclectisme bourgeois des siècles précédents qui nous a accoutumés à comprendre et pratiquer la ville comme un territoire négocié au plus aigu entre les forces en présence. Les affects au service de l'écoquartier durable à l'échelle de l'Union. Dans cette même période, la concession d'aménagement a pris enfin forme, 2007 donc, et la communauté urbaine a engagé l'Union dans la démarche de l'écoquartier encore balbutiante, nous l'avons vu. La définition de l'écoquartier ne s'éclaire qu'au terme du premier concours de 2009, organisé par le ministère de l'Environnement. La SEM Ville Renouvelée oriente sa propre thématique vers la participation en s'appuyant sur l'expérience Stephenson, soit 1,5 hectare sur les 70 hectares de la ZAC. Or, c'est cette expérience qui lui vaut d'être distinguée comme projet d'avenir en 2009, puis lauréate du deuxième concours en 2011. La plaquette du ministère dédiée au projet L'Union conclut en effet la liste des arguments positifs par, j'ouvre les guillemets, l'exemplarité de l'îlot Stephenson, auto-réhabilitation, clarté des acteurs, participation citoyenne. Fermez les guillemets. Mais dans le même temps, la SEM Ville Renouvelée va s'employer pourtant à diluer cette participation habitante en imposant de nouvelles structures. Le club des partenaires d'abord, qui englobe, outre le collectif de l'Union, quantité d'autres interlocuteurs privés ou publics. Puis le conseil de gestion. En 2014, le tout précisément au nom de la gouvernance élargie et participative, c'est entre guillemets évidemment, maître mot de son nouveau référentiel dynamique de développement durable, R3D. Le R3D décrit comment construire la démarche éco-citoyenne et comment l'exporter vers d'autres sites. Sous la conduite du chargé de développement et de l'expertise sociale de la SEM Ville Renouvelée, un calendrier prend place, des processus très cadrés construisent désormais le dialogue, dont les assises de l'Union. Des publications se succèdent et forment une communication territoriale qui fait la part belle aux ressentis des habitants présents et futur. Ouvrier de la Tossée, perspective du promoteur Nakara et l'Union en 2020, petit matin clair. Pourtant, dès 2010, en dépit de l'emblématique expérience Stephenson, le divorce est consommé entre la SEM Ville Renouvelée et le collectif de l'Union qui fait le constat qu'il n'est pas parvenu à infléchir la programmation de la ZAC dans le sens social et écologique qu'il désirait. La SEM Ville Renouvelée a finalement su prendre toute contrainte, qu'elle soit d'ordre urbain, politique, militant, mais aussi tout affect, tout vécu, comme un levier. Indubitablement, elle sort transformée de ses expériences successives. Elle a observé le comportement de ses interlocuteurs, parfois au point de faire sienne leurs paroles, j'ouvre les guillemets, avec la laine ont tricoté aussi la vie sociale. Je ferme les guillemets. Dans un contexte de marché détendu et de destin ralenti, elle a bel et bien endossé intelligemment un rôle social qui n'était pas le sien. Elle s'est identifiée à son territoire, le versant nord-est, et économiquement et socialement déprimé. Sa démarche s'apparente à celle du territoire apprenant, fonctionnant en aller et retour incessant entre concepteurs et usagers dans l'idée d'une perfectibilité infinie, considérant chaque projet comme un prototype sur lequel il était possible de capitaliser l'expérience. Il y a bien la transfert dans la pratique de l'urbanisme et à grande échelle du fonctionnement itératif de la production industrielle. Selon la démarche même du design, stratégie de projet et retour d'expérience dans lequel le produit fini n'est jamais plus que le témoin du processus qu'il a généré. Mais à ce jeu-là, il n'en demeure pas moins qu'en dépit d'un apparent changement de logiciel, participation, développement durable, la SEM Ville Renouvelée reste un outil de la production urbaine métropolitaine, engagée par un contrat de concession jusqu'en 2022 et qui a une obligation de résultat. En 2009, on décomptait les objectifs de logement suivants. 130 000 m², soit 1542 unités, avec moins de 100 logements réalisés en 10 ans. Et 250 aujourd'hui en projet, ces objectifs seront difficiles à atteindre et feront sans nul doute l'objet d'une révision. Observons aussi que sur ces autres sites métropolitains qui sont en marché tendu, la SEM Ville Renouvelée renoue avec ses pratiques d'aménageurs rentables, contribuant à conforter l'idée d'une disparité sociale, socio-spatiale persistante entre les territoires métropolitains lillois. Son attitude sur l'union a été un atout décisif pour gagner à présent d'autres concessions dans ce même environnement. Les documents les plus récents de la SEM Ville Renouvelée nous font voir que la ZAC de l'Union est désormais interdépendante avec les autres projets d'aménagement urbain dont elle a pris la charge plus récemment. Comme si toutes ces opérations distinctes constituaient à présent un continuum. Pour la SEM Ville Renouvelée, cette acculturation s'inscrit dans le contexte plus large des processus d'hybridation de toute nature auxquels l'urbanisme actuel est confronté, tant en termes de montage d'opérations, de maîtrise d'ouvrages publics-privés, d'offres mixtes à la fois sociales et commerciales, et dans nombre d'expériences où le qualitatif entend le disputer au quantitatif. Ces modes opératoires issus d'une crise conjoncturelle ont-ils à terme transformé le rapport au projet et au lieu des acteurs de la ville, institutionnels, professionnels, habitants? Point d'interrogation. Quand la maîtrise d'ouvrage enjoint à la maîtrise d'œuvre de se mettre au service des attentes des habitants usagers et de leurs affects, elle procède à un transfert de responsabilité qui nous semble relever davantage de la citoyenneté que de l'urbanisme. En continuant à faire ainsi porter à la fabrique de la ville un rôle qui n'est pas le sien, n'est-ce pas là un nouveau visage du spatialisme ? Merci.
Merci, Christophe.